Il y a deux volets. Donc, s'il plaît à Dieu, le deuxième volet sera abordé une autre occasion. Donc, je vais me permettre de réallumer ces bougies devant vous. Ce volet ne sera pas abordé aujourd'hui, mais n'empêche que nous allons le souligner et sera développé à une autre occasion. Voilà. Vous permettez que je n'en allume que trois. Pas que je ne veux pas allumer celle-là, mais elle va couler un peu sur la table, donc j'ai peur. Voilà. Comme s'il y avait quatre. Hein. Très bien. Ça, c'est le premier volet. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Qu'est-ce que Dieu va nous dire? OK. Et puis, le premier volet que nous allons aborder. Le voilà. Je ne sais pas où le mettre. Ici. Très bien. Voilà. Je sais bien que les doigts féminins auraient mieux agencé ce qui est là, mais bon, voilà. Je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que Dieu va nous dire au travers de cela? Et on a des plus petits, des tout frêles, qui sont là. Voilà une année qui va se terminer, encore quelques heures, quelques jours, et l'année 2019 va se terminer et faire place, s'il plaît à Dieu, à 2020. Et comme on l'a déjà souligné au travers de la prière de Concetta, durant cette année, si on met le rétroviseur sur les jours qui se sont écoulés, nous devons constater que ces jours ont été à la fois mélangés de moments exaltants, de moments de joie, mais aussi des moments de tristesse, d'abattement. Il y a eu de ces moments où nos cœurs étaient dans la paix, et puis celui qui vous parle, j'espère d'être le seul, où mes pensées ont été agitées, ont été dans l'inquiétude. Malgré que le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, je dois avouer cette faiblesse. Il y a eu dans ces jours qui se sont écoulés des moments où ma santé, notre santé physique était agréable, et puis des moments où nous avons été alités, où nous avons eu besoin des soins que la thérapeutique humaine peut nous donner et nous avons pensé également à ceux qui sont passés par des opérations, hein, comme Salvatore, comme Dani et bien d'autres, et dont certains sont encore hospitalisés. Durant cette année, certaines familles se sont agrandies. Il y a eu des naissances, et je retiens tout au moins un, parce qu'il porte le même prénom que moi. Voilà, je me tais. Et puis, il y a eu des familles qui se sont agrandies, où elles ont accueilli des beaux-fils, des belles-filles, voilà, des mariages. Et à côté de cela, il y a eu des moments de détresse, parce que des familles se sont diminuées, ont été diminuées par le départ d'un bien-aimé pour la maison du Père, pour le ciel. Ainsi donc, il y a eu de ces moments d'exaltation, de ces moments, voilà, de belles émotions, et puis aussi des moments d'incompréhension, des moments d'indifférence. Et nous devons reconnaître ce qui est le bien aussi, c'est que pendant cette année, il y a eu des victoires qui se sont remportées, sur le royaume des ténèbres, puisque des nouvelles naissances ont été ajoutées à l'Église. Des moments de découragement, des moments difficiles, des moments d'abattement. Mais comme on l'a souligné, j'espère que vous allez le souligner avec moi, que malgré tous ces événements, chacun a pu expérimenter à sa façon toute la fidélité de Dieu. Combien sa bonté n'était pas épuisée, qu'elle se renouvelait chaque matin pour nous, que sa fidélité, sa patience, sa miséricorde à notre égard, sa bonté, son pardon, sa grâce et ses soins constants à notre égard ont été notre lot. Et si nous sommes là ce matin, c'est parce que sa grâce a opéré en chacun de nous. Raison pour laquelle, face à ces nuances de vie que nous pouvons vivre dans les jours qui viennent, nous avons besoin les uns et les autres de prier pour chacun, par rapport à l'Église locale aussi. Besoin de prier essentiellement pour le roi, pour nos ministres, pour que durant l'année qui va s'ouvrir, nous puissions encore vivre paisiblement, ayant l'occasion de nous réunir dans la paix, librement, que nous puissions encore proclamer cet évangile de paix, mais aussi prier, et essentiellement prier pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui ont différents ministères dans l'Église, essentiellement pour eux parce qu'ils sont devant de la bataille. Ils sont la mire de l'ennemi et nous avons besoin de prier pour eux. Je voudrais lire avec vous un texte que l'on retrouve à la fois dans le prophète Ésaïe et qui est rapporté, je vais dire, intégralement dans l'évangile de Matthieu. Au travers de ce texte, nous allons découvrir toute la beauté de ce roi serviteur que nous avons chanté. Nous allons en découvrir son caractère moral. Et comme il ne change pas, j'espère que vous êtes convaincus que le Seigneur reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans nos vies, sa fidélité dans le passé reste pareil pour nous. Et nous allons découvrir que ce roi serviteur, il a des soins particuliers à notre égard. Et pour cela, il va utiliser deux images, celle de la bougie et celle, je vais dire ici, bon, j'ai utilisé du bambou, mais celle du roseau, pour nous décrire quels sont ses soins qu'il va apporter, qu'il nous a apportés et qu'il apportera aussi dans les jours qui viennent. Malheureusement, je pense que, en étudiant ces deux images qui parlent de moi, de chacun d'entre nous, je pense sage de me limiter à une seule image et s'il plaît à Dieu, vous encourager à poursuivre la réflexion chez vous. Pourquoi pas un dimanche revenir sur une de ces images. Ésaïe 42, on ne va pas le lire, et je vous invite à aller directement dans l'application de cette prophétie d'Ésaïe 42, et cela se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 12, et nous lisons à partir du verset 14, bien que ce ne soit que les versets 18 à 21 qui seront le sujet de notre réflexion ce matin. Matthieu chapitre 12 et au verset 14, sachant que le prophète Ésaïe ne parle que des versets 18 à 21. Je lis au verset 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr, de le faire périr, de faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, et il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Et voilà, nous lisons au verset 18 ce que Ésaïe dit et qui nous est rapporté ici, et que le Seigneur Jésus va appliquer dans sa tendresse, dans son amour. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Nous arrêtons là dans un premier temps notre lecture de façon à souligner le caractère moral de celui qui est le serviteur de Dieu. Ce serviteur de l'Éternel accomplit un ministère d'amour, un ministère de miséricorde, un ministère d'homme parfait sur la terre. Il est le Fils éternel qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais qui s'est anéanti et qui a pris la place de serviteur. Et il nous est dit ici, voici mon serviteur, celui que j'ai choisi pour vous servir. Et aujourd'hui, il désire encore nous servir. C'est la place qu'il utilisera pendant toute l'éternité. Il se scindra lui-même et il nous servira pendant l'éternité. Nous allons le servir. Mais il sera toujours le modèle du service parfait. Le bien-aimé que Dieu a choisi, en qui Dieu a trouvé son plaisir, lorsqu'il a foulé cette terre, le ciel s'est ouvert à plusieurs reprises. Mais déjà au début de son ministère, le ciel s'est ouvert lorsqu'il était plongé dans les eaux du Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Le ciel s'est ouvert et il nous a dit que voici mon Fils bien-aimé, dit le Père du haut du ciel, en qui j'ai trouvé tout mon plaisir. Voici mon bien-aimé en qui mon âme trouve son plaisir, dit l'Éternel. C'est le serviteur parfait qui ne désobéit pas, un serviteur parfait qui accomplit la volonté de Dieu. Je mettrai mon esprit. Il a été conçu du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il a été baptisé, le ciel s'est ouvert et l'Esprit est descendu sur lui. De sorte que, on pourrait le lire aussi dans le prophète Ésaïe, mais cela est rappelé au début du ministère du Seigneur Jésus dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le Seigneur, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Quel est le caractère du vrai serviteur de l'Éternel? Et puis nous avons lu, il annoncera la justice. Et le verset 21, il nous est dit que ce vrai serviteur ne va pas s'arrêter, il ne va pas se décourager, il va persévérer jusqu'au moment où la vraie justice de Dieu va apparaître parmi les nations. Elle sera même réclamée par les nations. Et puis nous avons lu le caractère. Ce vrai serviteur, ce n'est pas un agitateur. Ce n'est pas quelqu'un qui va se disputer. Ce n'est pas quelqu'un qui va gueuler dans les rues. C'est pas quelqu'un qui va crier. C'est pas quelqu'un qui va utiliser la force physique. Toi, suis-moi. Non, c'est quelqu'un de doux et de humble. C'est pas quelqu'un qui va utiliser des pouvoirs surnaturels. Si vous lisez le verset 24, on va accuser le Seigneur qu'il accomplit des miracles par Beelzébul et ça ne le veut pas. Alors, il n'est pas quelqu'un qui va être démagogue, qui va soulever la foule politiquement pour qu'elle le suive. C'est pas un conquérant tel que le monde le propose, mais c'est un conquérant fait d'humilité, d'amour, plein de bonté, plein de tendresse. La haine, l'ingratitude des hommes face à ce serviteur, à celui qui nous sert de la part de Dieu, ne sera pas là pour étouffer son amour et sa tendresse. C'est ce serviteur-là, bien-aimé, qui est à nos côtés, qui nous a servi pendant 2019. Et soyons certains qu'il nous servira encore pendant 2020. C'est ce serviteur-là, humble et débonnaire, qui est à nos côtés. Et je vous invite à lire maintenant au travers de deux images, quels sont les soins que ce serviteur parfait désire accomplir pour nous. Et nous reprenons la lecture dans Matthieu chapitre 12 et nous lisons à partir du verset 20. Après avoir dit qu'il ne contestera pas, verset 19, il ne criera pas. Nous lisons à partir du verset 20. Il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Les nations espéreront en lui. En lisant ce verset, il ne brisera pas le roseau cassé. Comme je suis loin de la fable de la fontaine, avec le chêne et le roseau, où on me dit que dans cette fable, parlant des hommes orgueilleux, que le roseau ne se casse pas, qu'il est ballotté à tous les vents, il plie, mais ne se casse pas. Voilà que l'Évangile m'annonce autre chose. L'Évangile est en train de me dire, il y a parfois des roseaux cassé. Et le serviteur parfait, quand il voit un roseau parfait, un roseau cassé, il ne va pas l'achever. Il va le prendre et lui donner les soins dont il a besoin. Je ne vais pas casser un roseau comme cela parce que c'est assez tranchant, d'autant que c'est du bambou. Mais vous pouvez imaginer que si un canard venait dans le marais où les roseaux poussent, avec un petit truc comme ça, il a vite fait de le plier. Voilà, surtout quand c'est devenu un fétu de paille, pour lequel nous n'avons plus beaucoup d'estime, sinon que de le mettre à fouler au pied du bétail. Et le serviteur parfait de dire, ça je vais en prendre soin. Oula, pardon. Oui. Je vais reprendre la deuxième image, mais nous n'allons pas l'étoffer aujourd'hui de grâce. Voilà. Je vais essayer, autant que faire se peut, hein, que l'expérience chimique ou physique, physico-chimique, fonctionne. Si ça rate, sachez qu'avec Dieu, ça ne rate jamais. Hein, ça, c'est une certitude. Donc, voilà, je suis honnête avec vous. Voilà, je vais déjà allumer la bougie, l'allumette à l'avance. Dieu me dit que s'il voit une mèche en train de fumer, cette fumée, vous l'avez vu, hein, je n'ai pas touché la mèche, hein. Je peux le faire, peut-être que ça me devient, hein, un coup de chance, oui, hein. Oui, un coup de chance, hein. Oui, hein. Voilà. Imaginons que ce soit le bon serviteur qui vient vers moi et il voit en moi, dans cette deuxième image, oh là, il voit en moi une mèche qui est en train de fumer. Et dans la mesure où je viens me placer à l'ombre de ce serviteur, c'est lui qui, de manière miraculeuse, vient me toucher, me réchauffer et me rallumer. Mais cette image, me semble-t-il, réclame plus qu'un quart d'heure, et je préfère développer l'aspect du roseau. En le méditant, je pense que chacun d'entre nous va trouver d'autres exemples avec ce roseau, et réservez cela pour votre réflexion ou pourquoi pas revenir à une autre occasion sur « Il n'éteindra pas le lumignon qui fume ». Bien-aimé, ce lumignon, il y a à peine une petite rougeur sur la mèche. Et plutôt que d'éclairer, elle fume et ça pue. Ça pue la fumée. Et Dieu, le vrai serviteur, me dit, si tu viens vers moi, si tu te mets sous moi, alors moi je vais te rallumer. Viens vers moi. Et nous savons que le vrai serviteur ne rejette personne qui vient à lui. Mais nous abandonnons cette idée pour laquelle on reviendra, s'il plaît à Dieu, une autre fois. Sinon, vous-même, prolongez cette réflexion. Voilà, nous revenons à notre... Bien-aimé, si le serviteur a accompli cela pour nous, malgré les événements que nous avons vécus durant 2009, et que si nous nous posons la question, qu'est-ce que 2020 va nous donner? Il y a une certitude que je peux vous dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que 2020 va me donner. Je ne sais pas ce que je vais vivre pendant 2020. Je vais vivre sans doute les mêmes choses, à la fois des moments de joie et des moments d'inquiétude, des moments de paix et des moments de trouble. Je vais les vivre. Mais il y a une certitude, c'est que le Seigneur ne change pas. Et qu'il, s'il voit le roseau brisé, cassé chez moi, il va prendre soin de moi et me relever. Nous sommes loin de la fable de la fontaine, où, dans laquelle le roseau plie, ne seront pas, dans notre texte, il peut se casser. Mais l'homme divin, le serviteur, ne le brisera jamais. Jamais. Alors, je vais essayer de me retrouver parce que j'ai sauté pas mal de trucs. Voilà. Le roseau cassé. va pas le briser. Alors, pour cerner les vrais soins du bon berger, du serviteur, il me paraît utile de réfléchir où je peux trouver, à la fois dans la vie, dans la Bible, mais également en géographiquement sur cette terre, où je peux trouver le roseau. Alors, si vous allez dans une concordance, qu'elle soit sur Internet ou dans un livre, vous tapez roseau, voilà, on va vous diriger vers le mot de jonc, vous diriger vers le mot de canne, qui sont des mots semblables, voilà, et on peut les trouver depuis la Genèse jusque dans l'Apocalypse, le roseau. J'en ai seulement soulevé quelques-uns. Savez-vous dans quoi Moïse, bébé, a été placé? Dans un panier de jonc, tressé, et pour qu'il ne coule pas, on avait mis du bitume. Voilà, il a été placé dans un panier en jonc, en roseau. Et où cela? Sur un fleuve. Où? Parmi les roseaux. C'est dire que le roseau pousse parmi l'eau. Il lui faut quelque chose de pas trop profond. Je serais tenté de dire que le roseau a besoin de vivre dans le marais, dans de l'eau marécageuse. Autre exemple, et nous savons que la fille de Pharaon a vu ce berceau de jonc parmi les roseaux. Et en ouvrant le roseau, elle a trouvé que le bébé était beau. Aussi toute une application, quand Dieu vient nous chercher parmi le marais de notre vie. Un autre exemple, l'Éternel parle à Moïse et lui dit, voilà, tu vas faire de l'huile sainte pour moi, tu vas faire du parfum, et il y a un roseau particulier qui était ajouté à ce parfum, à cette huile sainte, et qui était le roseau aromatique. Exode chapitre 30. Un autre exemple, c'est un endroit où se trouve le roseau, parce que le nom de cette ville, de ce village, porte ce nom, endroit du roseau, c'est la ville de Cana. Cana veut dire endroit du roseau. Et c'est là que Jésus a opéré le premier miracle, transformant l'eau en vin à l'occasion d'une fête de noces. Et puis, un événement un peu, enfin pas un peu, mais beaucoup plus douloureux, nous comprenons que quand Jésus a été arrêté, il nous a dit qu'il tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête et lui mit un roseau dans sa main, pour le tourner en dérision. Et puis, à un moment donné, ils ont craché sur lui, ils ont pris le roseau et ils ont commencé à taper sur sa tête. Voici quelques exemples parmi tant d'autres où nous pouvons trouver le roseau dans la Bible. Ainsi donc, le roseau dans la Bible est synonyme de fragilité, de feutu de paille, comme on l'a vu, quelque chose qui est sans valeur, et quand le pied de l'homme le piétine, il se casse. Cela illustre ma vie à moi, ma vie, celle que j'ai vécue pendant 2019, et que si le Seigneur prend patience, je risque de vivre pendant 2020, une vie avec sa fragilité, une vie agitée par le vent, parfois violent, des événements qui viennent souffler sur ma vie, qui fait que je me courbe. Ce sont là toutes sortes d'épreuves, de circonstances, voilà, Je ne suis pas un chêne, mais gloire à Dieu que je suis un roseau. Parce que selon La Fontaine, le chêne, quand le vent souffle, il se déracine. Moi, je peux me plier, mais je ne casse pas. Combien de fois, bien-aimé, j'ai plié, je me suis courbé durant les jours qui se sont passés sous le vent de l'épreuve, les circonstances de la vie qui m'ont atteint. Et combien de fois j'ai été tellement courbé par l'épreuve que je me suis dit en moi-même, c'est fini Daniel, tu vas casser, tu vas être brisé par la souffrance. Mais béni soit Dieu de ce que le serviteur était là pour prendre soin de moi et dire stop à l'épreuve, elle ne va pas dépasser tes forces. Voici quelques décennies, une histoire que j'ai vécue avec ma famille. Hein, voilà. Nous étions dans les Alpes. Bon, pour être plus concret, nous étions dans le Grand Bornand, en plein été, après le camp de Genval. Et quelqu'un de la famille, pour ne pas le citer, moi, entre autres, maladroit, en marchant dans la montagne, dans la forêt de sapins, voilà que mon pied léger vient écraser malheureusement une petite pousse de sapin, mais une toute petite. Vous imaginez que sous 100 kilos, pouf, la petite pousse de sapin s'est pliée, courbé contre la pierre, je suis tenté de dire le visage en terre. Et la première réaction qui est montée de mon cœur, c'est presque de donner à nouveau un coup de pied en disant, ça voilà, c'est fini, tu deviens inutile, on va t'arracher, on va te jeter, voilà, fini avec toi. Et puis, un petit sursaut, pour me dire, non Daniel, fais pas ça. Et nous avons repris avec un peu de terreau cette petite pousse. Et puis nous l'avons ramenée chez nous. On s'est enquis de savoir dans quel genre de terre ce sapin pouvait pousser. Voilà. On lui a mis les ingrédients nécessaires dans le trou de notre petit jardinet. Je dois avouer que cette plante a eu difficile à grandir. Je dois l'avouer. Mais après quelques années, elle a commencé à prendre de la vigueur et elle est devenue un grand arbre. Dans la situation qui nous occupe, on peut imaginer qu'un promeneur qui marche le long d'un marais avec un roseau, des roseaux, piétine un de ces roseaux et ait envie de lui donner un coup de pied en disant « tu ne sers plus à rien », de l'écraser davantage, en disant, il a peu de valeur ce roseau, c'est fini. Mais ça, c'est moi qui pense là. Imaginons que, à ma suite, après avoir écrasé ce roseau, qu'un agronome passe à ma suite et qu'il voit autre chose que ce que mes yeux voient. Et qu'il voit non pas le feu de paille qui va sécher, mais qu'il voit encore la haute importance de ce roseau cassé. Il en prend soin jusqu'à ce qu'il ait repris de force. Ainsi en est-il de chacun de nous de la part du bon berger. on est en apparence très simple, en apparence fragile. Mais ce roseau, d'après le bon serviteur, peut encore servir. À nos yeux, on est irrécupérable, mais pas pour le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu veut redonner vie, veut redonner de l'éclat, veut redonner de la beauté, veut que ce roseau cassé ne soit pas brisé et redevienne utile. Quand je pense à mes faiblesses, et quand nous lisons l'Évangile et que je vois la faiblesse des disciples, quand le Seigneur leur dit « Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Homme de peu de foi, quand je pense à la faiblesse qui est mienne, alors je me dis « Seigneur, tu aurais le droit de m'écarter de ton chemin. » Mais dans sa grâce, il a choisi de prendre des choses qui sont faibles pour confondre des fortes. De celles qui n'ont pas de valeur pour confondre celles qui sont puissantes. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup dans notre société, mais dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de roseaux froissés et qui ont besoin d'être pris par la main et d'être conduits à celui qui est le grand serviteur pour qu'il accomplisse son œuvre de divin agronome et apporter les soins dont ce roseau a tant besoin. À quoi peut servir un roseau? Moyen d'écriture et moyen et support d'écriture. Une des applications les plus courantes du roseau était de faire du papyrus. Je sais bien qu'aujourd'hui, on va parler de papyrus aux enfants, eux c'est PC, c'est ordinateur, c'est imprimante, jet d'encre, tout ce qu'on veut. Mais à l'époque, le papyrus était fortement utilisé. On prenait un bout de roseau, on le biseautait, et d'office, il devenait une plume pour pouvoir écrire. La plume de l'écrivain habile, qui permettait de conserver des traces de l'histoire. Ainsi donc, Dieu désire de faire de moi un support d'écriture. Dans la mesure où je me laisse trouver par lui, où il va peut-être me biseauter, mais faire en sorte que je devienne utile. Et comme le dira l'apôtre Paul, que nous soyons des lettres de Christ lues et connues de tous les hommes. Non pas avec l'encre que les hommes vont utiliser, mais des lettres écrites par le Saint-Esprit, par le serviteur lui-même au travers de sa parole et de son esprit. Non pas des lettres écrites sur des pierres, mais sur des cœurs régénérés et qui font que ce qui se trouve à l'intérieur peut se révéler à l'extérieur. Voilà ce que le grand serviteur veut faire de ma vie. Elle est peut-être pliée, mais le grand serviteur veut en faire une plume pour écrire la lettre de Christ dans nos vies. Le roseau, très épais, hein? Voilà, ça peut avoir 2 centimètres de diamètre. Hein? Voilà, annelé, cannelé comme on veut. Voilà, il peut être creux. Et on peut les vider. Et si, évidemment, ça fait partie de l'épreuve que Dieu va agir dans nos vies, si dans ce tuyau, je viens y insérer des trous, j'ai fait une flûte. Dieu va se servir de moi pour que je devienne une mélodie pour lui. Une mélodie d'amour. Le roseau peut être dans le marais, en train de puer. Il peut être brisé, cassé, pardon, par la main inattendue de l'épreuve ou de l'homme. Mais le grand serviteur peut l'utiliser, le creuser, y percer des trous et faire en sorte que ce roseau devienne un instrument qui va chanter sa gloire. Ce roseau peut être aussi un instrument de parfum, d'intercession, d'adoration, qui est utilisé dans le sanctuaire de Dieu pour apporter la louange à notre Dieu. Et comme le dit l'apôtre Paul, pour répandre la bonne odeur de Christ. Dans ce monde, une odeur tantôt de mort, tantôt de vie. De mort pour ceux qui refusent l'évangile, mais de vie pour ceux qui viennent à Jésus-Christ. Nous sommes, dit Paul, 2 Corinthiens, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes là, bien-aimés, en tant que roseau que Dieu va utiliser pour le remplir de son esprit, pour que la maison de l'Éternel, et nous osons le proclamer que cette maison, elle est dédiée à l'Éternel, que la maison de l'Éternel, comme du temps de Jésus, soit remplie de la bonne odeur de Christ. Jean chapitre 12, si j'ai bon souvenir, où Marie est venue rompre le parfum de nard de grand prix. Et il nous est dit que toute la maison était remplie de cette bonne odeur. Bien-aimé, si tu viens à Jésus-Christ, malgré que tu sois brisé, cassé par la souffrance, tu n'es plus inutile. Dieu veut t'utiliser. Vous allez me dire, mais comment peut-il m'utiliser alors que je suis courbé par la souffrance? Il faudrait relire toute l'épître de la deuxième épître aux Corinthiens. Dans la souffrance que Dieu permet, il nous apporte à chacun la consolation dont nous avons besoin. En vue de quoi? En vue d'être nous-mêmes des instruments de consolation pour ceux qui passent par l'épreuve. Comment, moi, qui n'ai pas perdu un enfant, comment je peux aller consoler un cœur brisé par le départ, par le deuil d'un enfant, alors que la personne qui a vécu cet événement triste, douloureux, peut, elle, apporter la consolation à ceux qui sont dans l'épreuve et qui vivent la séparation d'un enfant. Le roseau qui est là, le gros, hein, je peux aussi en faire une canne à pêche. Une canne à pêche, et Dieu me dit, toi, tu seras pour moi un pêcheur d'hommes. Peut-être, oui, dans ce monde, nous avons connu des hommes que Dieu a appelés et qui ont été des filets pour le monde. Hein. Ils ont rapporté plus de 153 gros poissons, comme la pêche miraculeuse, après que la résurrection du Seigneur sur le lac de Galilée. Voilà, peut-être que je ne suis pas ce filet à jeter dans la mer. Mais il y a une chose certaine, c'est que si je viens à Jésus-Christ, je peux être une canne à pêche. Et répondre au désir du Seigneur qui dit, « Toi, je veux que tu sois un pêcheur d'hommes. » Que tu apportes la parole, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, bien-aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord pour être cette canne à pêche? Il n'y a pas de moins qui se lève en opposition. Alors, bien-aimé, à chacun d'entre nous, moi le premier, je lance un défi. Imaginons que pendant 2020, si le Seigneur nous accorde de vie, que chacun d'entre nous, chacun, nous acceptions d'être cette canne à pêche et que par la grâce de Dieu, nous amenions dans l'Église de Jésus-Christ une âme sauvée. Je pense qu'il faudrait ajouter des chaises. C'est le défi que je nous lance de la part de Dieu. Être des cannes à pêche pour Dieu. Tu crois que tu es nul, tu penses que tu ne sais rien dire, tu penses que tu ne sais pas annoncer l'Évangile, tu penses que tu ne sais pas témoigner. Dieu a décidé de t'utiliser. Accepte-le et sois une canne à pêche pour lui. Autre utilisation de la part de Dieu pour ce réseau. Aujourd'hui, ça ne se fait plus, mais moi, j'ai connu le moment où on mettait un roseau à côté d'une jeune plante pour qu'elle... Un tuteur. Oui, hein? Un tuteur. Dieu me dit, moi, je suis ton tuteur. En tant que serviteur, je te tiens debout. Tu plies, mais je te tiens. Et là, c'est toute la notion de la fidélité de Dieu. Hein? La fidélité de Dieu, c'est comment on appelle ça? Quand un mur est en train de vaciller, on lui met un morceau de mur là qui le tient. Ça porte un nom particulier, mais je l'ai oublié. Un étançon, merci de me le rappeler. Un étançon. La fidélité de Dieu, c'est ça. C'est l'étançon qui m'empêche de me plier trop fort et qui me redresse. Alors Dieu me dit, oui, tu as été cassé par les circonstances de la vie. Moi, je ne te rejette pas. Regarde comment, de quelle manière je te tiens debout. Alors, sois pour les jeunes plantes spirituelles des tuteurs. Ne les crasse pas. C'est toi qui es fort dans la foi qui dois garder le plus faible dans la foi. Et bien souvent dans l'Église, c'est l'inverse. C'est le faible qui doit tenir le fort. Prenons conscience que c'est ceux qui sont les plus enracinés, les plus forts dans la foi, qui sont appelés à être patients et à être des tuteurs pour ceux qui sont faibles dans la foi. Bien-aimés, pour agir de cette manière, je dois, moi personnellement, me rappeler constamment d'où je viens. Que j'étais cette faible plante, un feutu de paille, qui a été brisé. Que je suis sorti du marais de ce monde pour comprendre ce qu'un jeune dans la foi a besoin de moi pour l'aider à grandir dans la foi. Pour être juste à ses côtés, un Paul à côté d'un Timothée. Pour le maintenir debout, étant moi-même tenu debout par la grâce de Dieu. Et puis, voilà, je vais m'arrêter là. Mais on utilisait aussi les roseaux pour faire des clôtures. Voilà. Et nous sommes invités, bien-aimés, à veiller les uns sur les autres. Il y a quelqu'un dans l'Ancien Testament qui, après avoir commis un acte malheureux, Caïn, il y a l'Éternel qui lui dit, qu'est-ce que tu fais? Et Caïn de dire, suis-je le gardien de mon frère? Alors si le Saint-Esprit a fait sa demeure en toi, alors bien-aimé, sois le gardien de ton frère. Veille sur lui. Veille sur lui, tu en as besoin, comme lui a besoin de toi. Alors bien-aimé, ne soyons pas de ces gens comme ce monde, qui d'un coup de pied allons balancer ce qui me semble fragile, ce qui me semble cassé. N'éteignons pas la mèche qui fume encore, mais soyons pleins de compassion envers les autres, pleins d'espoir, même avec ceux qui, à nos yeux, sont dans une situation qui me semble désespérée. Que de fois dans mes pensées, je me dis, il ne s'en sortira jamais. Mais ça, c'est moi qui le pense. Dieu a des pensées différentes. Et à cause de cela, il me dit, sois un tuteur. Viens en aide. Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, avec qui il y a toujours de l'espoir. Ne venons pas vers les gens qui semblent courbés avec un esprit de jugement, mais avec un cœur plein de compassion pour travailler à l'œuvre de Dieu et entendre le Seigneur, le grand berger, le grand serviteur me dire, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En conclusion, n'oublions pas que nous sommes des plantes extraites du marais, que le vent a ballottées. Si à l'aube de cette année 2020, nous nous sentons comme un roseau brisé par le vent de l'épreuve rencontrée pendant 2019, courbé par le poids parfois de nos échecs. Sachons revenir à ce serviteur parce qu'il veut prendre soin de nous. Il n'en a pas fini avec ceux qui viennent à lui. Il ne rejette personne. Il veut faire de nous une plume, un écriteau pour écrire sa pensée divine. Il veut faire de nous des cannes à pêche. Il veut faire de nous des tuteurs pour supporter les autres et les aider à grandir. Il veut faire de nous des parfums qui allons remplir sa maison. Il veut faire de nous des lettres écrite par son doigt divin. Il veut faire de nous des instruments de musique, des flûtes, pour le louer, pour chanter une douce mélodie. Je ne suis pas capable de faire des trous ou de connaître l'endroit dans la flûte où je dois faire des trous, la grandeur de ces trous. Je ne suis pas capable de faire toutes ces choses pour qu'il y ait des accords parfaits. Je ne suis pas capable de façonner toutes ces choses. Je ne suis pas capable d'envoyer le souffle divin pour que de mon être arrivent ces merveilleuses choses que Dieu a programmées pour moi. Mais une chose certaine, c'est qu'avec Dieu, c'est possible. C'est possible. Alors, bien-aimés, que Dieu fasse de nous de ces roseaux qu'il va continuer à utiliser. Et si nous sommes courbés, si je suis plié, si je suis abattu, rappelons-nous, pour les jours qui viennent, il ne brisera pas le roseau qui est courbé, qui est plié. Les épreuves peuvent s'ajouter les unes aux autres, aussi longtemps que le Seigneur le permettra, mais tant que lui me soutiendra. Jamais il n'y aura de rupture. Jamais. Soyons certains, bien-aimés, de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Que le Seigneur bénisse sa parole.